Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le Royaume-Uni a annoncé un projet qui suscite l'indignation. Envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Objectif, dissuader les traversées de clandestins. Nous y reviendrons avec le coprésident du MRAP, Jean-François Quentin. Des frappes israéliennes près de la capitale syrienne, 9 combattants parmi lesquels 5 soldats syriens sont morts. La guerre en Ukraine, la Russie coupe le gaz à 2 pays européens, la Pologne et la Bulgarie. C'est l'un des temps forts qui marque le mois de Ramadan, la nuit du destin, la nuit du doute aura lieu samedi prochain. Le mois du Ramadan, un mois marqué notamment par les iftars organisés par les fédérations musulmanes. Mercredi dernier, DITIF France organisait un repas de rupture du jeûne. Radio Orient était sur place. Parmi les personnalités présentes, le président du comité de coordination des musulmans turcs de France, Ibrahim Alsi, que nous écouterons. Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement depuis sa réélection dimanche dernier. Le président de la République a choisi Cergy dans le Val-d'Oise. Un choix, pourra-t-il dire, montrer qu'il a entendu le message très clair envoyé par les quartiers les plus populaires de la République. Un accord qui suscite l'indignation, accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Il prévoit que Londres puisse envoyer une partie de ses demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire au Rwanda. Entretien avec Jean-François Quentin, coprésident du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
À première vue, c'est un peu surprenant. Ça consiste à prendre les demandeurs d'asile qui arrivent en Grande-Bretagne, et dans la mesure où ils sont entrés illégalement, ce qui n'a rien d'extraordinaire d'ailleurs pour un demandeur d'asile, parce que quelqu'un qui est en fuite, par définition, il n'a pas demandé de visa ou d'autorisation d'entrée. Et dans le cadre de la Convention de 1951 sur les réfugiés, il a le droit de demander l'asile. Quelqu'un qui a franchi la frontière a fondamentalement le droit de demander l'asile. Et alors, le gouvernement anglais a imaginé, pour remplir ce droit, de les envoyer au Rwanda, où, par convention avec le Rwanda, ils deviendraient demandeurs d'asile au Rwanda. Ça paraît complètement burlesque, mais en fait, c'est une vraie stratégie. Hein. Le fond de la stratégie, c'est de décourager les demandeurs d'asile de venir en Angleterre. Et évidemment, ils pensent en premier à tous ceux qui sont massés à Calais ou sur la côte française et qui gagnent l'Angleterre.
Alors, vous évoquez l'aspect cynique de ce projet.
C'est cynique et c'est manipulatoire parce qu'évidemment que aucun de ces réfugiés n'a envie de terminer au Rwanda. C'est pas qu'ils sont pas réfugiés, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent tant venir en Grande-Bretagne? C'est qu'en général, ils viennent de pays, d'abord ils sont anglophones, et puis souvent, il y a déjà des communautés afghanes ou syriennes en Angleterre. Et donc, ils ont, sinon de la famille, du moins une diaspora qui va les aider à être accueillis et à s'intégrer. Et donc, c'est un véritable exil que de les envoyer au Rwanda. Donc, ce qu'espère le gouvernement, c'est pas réellement les envoyer, ou ils vont peut-être le faire pour quelques-uns, à titre d'exemple, pour que ceux qui cherchent à se réfugier en Angleterre y renoncent, par peur.
Il y a des précédents de tels projets qui ont déjà été envisagés?
Alors oui, il y a même un précédent qui existe, c'est l'Australie, qui pratique ça avec des micro-États du Pacifique. Ils considèrent qu'ils remplissent leur devoir de la Convention de 1951, la Convention de Genève, en envoyant les candidats à l'asile dans ces micro-États du Pacifique. Il suffit de prétendre que cet État est démocratique, donc sûr, ce qui reste à prouver pour le Rwanda d'ailleurs, et donc l'asile est assuré, et ça existe déjà entre l'Australie et certains États du Pacifique.
Ils seraient ainsi empêchés de se rendre dans d'autres pays une fois au Rwanda?
Oui, ils auront obtenu l'asile au Rwanda, pays soi-disant sûr. Donc, voilà, leur demande d'asile a abouti en quelque sorte. C'est surréaliste, mais c'est comme ça.
Cela a suscité des réactions internationales, mais vous estimez que ce projet devrait être davantage mis en lumière aujourd'hui?
Oui, oui, oui. Évidemment que, on a communiqué un peu dessus et les ONG en général, d'ailleurs, se sont indignés. Et en Angleterre même, au Parlement, même dans la majorité de Boris Johnson, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est vraiment indigne et on n'est pas encore sûr qu'il sera mis en œuvre. Il faut vraiment peser pour qu'il soit discrédité et abandonné, ce projet.
C'est une forme de mépris de l'humanité des candidats à l'exil, selon vous?
C'est plus que du mépris, c'est quasiment une marchandisation des réfugiés, parce que tout ça n'est pas gratuit. Le Rwanda, pour se laisser convaincre, va toucher quand même 144 millions d'euros. Donc c'est plus que du mépris, c'est une marchandisation. C'est presque de la traite d'êtres humains. Hein. L'Angleterre vend des réfugiés au Rwanda.
Des personnes qui, bien entendu, n'ont aucun lien avec ce pays.
Alors c'est ça. Quelquefois, on dit, mais bon, ces gens qui sont à Calais, pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas, ils demandent pas l'asile en France? Parce que un réfugié, c'est un être humain, et c'est déjà difficile d'avoir quitté son pays, et en général, ils essayent de rejoindre des pays où ils ont quelquefois des liens familiaux déjà, ou des liens de communauté, parce qu'il y a des gens de leur village ou de leur région qui y sont, ou tout simplement du pays d'où ils viennent. Et donc, ça fait pour eux un point d'appui pour l'accueil, pour l'intégration. C'est absurde de se retrouver dans un pays africain où on ne connaît personne et où on n'a aucun soutien, aucun point d'appui, même pas linguistique. Et d'ailleurs, le Rwanda est quand même largement francophone.
Ce qui rend l'intégration pour ces personnes impossible.
Impossible au Rwanda, ou très très peu probable, évidemment.
Vous craignez que ce projet inspire d'autres pays?
Oui, oui. Depuis quelques années, il y a une idée qui rôde, qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire de sous-traiter cette obligation internationale de l'accueil des réfugiés, de la sous-traiter à d'autres pays. C'est vraiment une dérobade d'un certain nombre d'États européens à leurs obligations internationales.
Et qu'est-ce que cela nous dit sur le regard porté aujourd'hui dans le monde sur les candidats à l'exil?
Ben, c'est ça qui est terrible, c'est que un gouvernement, pour se rendre populaire, se croit obligé de tout faire pour limiter le nombre de réfugiés, de migrants en général. Alors que on sait que l'Angleterre, par exemple, surtout depuis le Brexit, manque de main-d'œuvre. Il y a des récoltes agricoles qui ne se font pas parce qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre. Mais l'aspect idéologique, politique, de rejet de l'étranger est une sorte de leitmotiv quasi obligatoire des gouvernements européens. Pas tous d'ailleurs, mais enfin certains.
Jean-François Quentin, coprésident du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Des frappes israéliennes ont eu lieu près de la capitale syrienne. 9 combattants, parmi lesquels 5 soldats syriens, sont morts. Il s'agit des frappes les plus meurtrières cette année. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Israël a visé notamment un dépôt de munitions et plusieurs positions militaires liées à l'Iran qui aide militairement le régime syrien de Bachar al-Assad. Le 61e jour de l'invasion russe en Ukraine, la Russie qui prive la Bulgarie et la Pologne de gaz russe, une première en Europe où près de la moitié du gaz naturel utilisé pour le chauffage, la production d'électricité ou l'industrie est importé de Russie. Cette rupture de contrat intervient alors que de nombreuses chancelleries s'inquiètent du risque d'extension du conflit actuel hors d'Ukraine. Cela après une série d'explosions attribuées par Kiev à Moscou dans la région moldave séparatiste de Transnistrie. Une grève générale dans la fonction publique en Algérie, un mouvement pour demander une hausse des salaires, mouvement à l'appel de la Confédération des syndicats autonomes. Le Maroc a adhéré à l'organisation de la coopération numérique, une annonce de l'organisation basée à Riyad. Le Royaume devient ainsi le 9e membre de cette organisation. La DCO, qui œuvre pour la réalisation de la prospérité numérique, comprend également le Bahreïn, le Koweït, le Nigeria, le Sultanat d'Oman, le Pakistan, la Jordanie, le Rwanda et l'Arabie Saoudite. C'est l'un des temps forts qui marque le mois du Ramadan, la nuit du destin, dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Elle commémore la nuit durant laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Elle intervient dans les derniers jours du mois du Ramadan, peu avant l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du jeûne. Sa date sera déterminée lors de la nuit du doute, samedi soir prochain. Une commission religieuse se réunira à la grande mosquée de Paris. Le mois du Ramadan, un mois marqué notamment par les iftars organisés par les fédérations musulmanes. Mercredi dernier, DITIF France organisait un repas de rupture du jeûne au siège de son organisation à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Radio Orient était sur place. Parmi les personnalités présentes, le président du comité de coordination des musulmans turcs de France, Ibrahim Alsi. Entretien.
C'est important toute la partie dialogue interreligieux bien évidemment, mais c'est aussi partager un petit peu ce que nous les musulmans pendant ce mois béni on vit avec notre communauté musulmane.
Et lors des échanges, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans les différents propos?
En fait, c'est des questions parfois un peu est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, comment vous vivez le Ramadan. Nous en fait, on réexplique l'importance du mois du Ramadan, et après vous savez, c'est un des 5 piliers de l'islam, et ce qui est le plus important, c'est qu'on partage à la fin du mois du Ramadan. On a toute la partie zakat et fitr, et aujourd'hui c'est un mois de partage quoi, c'est un mois de partage. Parce que c'est un mois où toute la partie un peu plus difficulté qu'on peut avoir ou de la souffrance, ça nous permet de mieux donner aux personnes qui sont en plus nécessiteux. On a des iftars dans toutes les associations franco-turques, mais aussi maghrébines au niveau France. Et ces iftars ne sont pas que dédiés aux musulmans, ils sont aussi dédiés aux voisins, pour aussi les remercier de leur patience, parce que vous savez, dans nos mosquées, parfois, quand on sort, on fait peut-être un peu de bruit, et du coup, ça nous permet de renouer un peu des liens avec nos voisins, mais aussi aux personnes qui sont dans le besoin, les étudiants. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes des étudiants qui sont dans le besoin, et ils viennent faire des iftars avec nous dans nos associations au niveau national.
Vous contribuez à aider notamment les étudiants en difficulté. On sait qu'ils ont beaucoup souffert, notamment de la crise sanitaire.
Alors, juste pour info, c'est qu'au niveau du Covid, pendant le Covid, il y a 2 ans, on a quand même donné 350 000 masques. On a distribué à peu près 300 000 repas et 75 000 colis hebdomadaires, la communauté franco-turque. Et là, on continue. Tous les soirs, on a des associations à travers la France qui continuent à donner entre 100 et 200 repas tous les soirs à des étudiants, à des familles dans le besoin. Moi, à Roubaix, par exemple, on a encore donné samedi à peu près 800 repas. Et on a encore donné hier à peu près 150 colis hebdomadaires, c'est des colis hebdomadaires, à des étudiants qui étaient en besoin sur Villeneuve-d'Ascaline.
Et justement, ce mois de Ramadan, il a une tonalité particulière avec ce retour des iftars. Il y en a eu peu les 2 années précédentes à cause du Covid.
On a souffert, je peux vous confirmer, on a souffert pendant les 2 ans parce que l'islam, une religion de paix et aussi de solidarité et de fraternité. Donc pendant ces 2 ans, on n'a pas pu faire d'iftar, mais on a distribué beaucoup de colis, on a beaucoup aidé. On a aidé les hôpitaux, on a aidé parce que dans les hôpitaux, vous avez des étudiants en fait en médecine qui sont aussi qui ont besoin de besoin. Donc on a fait beaucoup de colis hebdomadaires, mais on a tous les réfugiés sur Dunkerque, sur Paris, sur Marseille, etc. Donc ça continue. On va aussi dans les EHPAD voir en fait les personnes âgées. Pendant c'est un mois vraiment de partage et de convivialité, et c'est ce qui est important, c'est faire ressortir de ce mois béni un mois vraiment de partage avec un grand P.
Le président de la coordination des musulmans turcs de France, Ibrahim Alsi. Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement depuis sa réélection. Dimanche dernier, le président de la République a choisi Cergy dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, le chef de l'État a indiqué qu'il nommerait un premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Emmanuel Macron, pour qui, dans les quartiers les plus pauvres, que ce soit dans les villes ou la ruralité, il faut recréer les conditions d'une réelle et effective égalité des chances. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h est Aurélie Taquilin, conseillère régionale La République En Marche en Ile-de-France. Émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.